Alors justement, on va continuer de parler de cet écosystème des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui a peut-être trouvé cette semaine son petit paradis, son Eldorado, son nid douillet au Salvador. Cette information a fait le tour du monde. Le Salvador, Charlie a adopté une loi faisant du Bitcoin donc une monnaie légale, première dans le monde. Qu'est-ce qu'elle contient cette loi exactement ?
Bah déjà, faut souligner que cette loi a été massivement adoptée par le Congrès salvadorien, parce qu'il y a eu, sur 84 parlementaires, il y a eu 62 qui ont quand même approuvé le projet de loi. Et donc, au sein de cette loi, il y a à peu près 16 articles, mais c'est vrai que le gros, c'est que le Bitcoin a désormais un cours légal, ce qui fait qu'aucun créancier ne peut refuser aujourd'hui du Bitcoin. Tous les agents économiques, ça peut être les entreprises, mais aussi les institutions publiques, sont obligés d'accepter moyen de paiement, le Bitcoin. Vous pourrez payer vos impôts en Bitcoin, vous pourrez acheter n'importe où tout ce que vous voulez en Bitcoin. Tous les prix d'ailleurs pourront être référencés, donc qui sont déjà en dollars là-bas, et pourront être référencés en Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est assez important. Et le seul endroit, le seul cas où là il n'y aura pas trop de Bitcoin, c'est pour notamment pour des fins comptables. Par contre, là, la monnaie de référence, par contre, restera le dollar, puisque il y a des normes internationales, quand même comptable qu'il faut respecter, bien sûr. Et il y a aussi, à côté de cette loi, donc le Salvador qui a annoncé qu'ils allaient investir l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui dans un fonds qu'ils vont mettre dans un fonds étatique. Et ça va permettre d'apporter de la liquidité aux commerçants, mais aussi aux citoyens qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés à accéder au Bitcoin. Et d'ailleurs, peut-être qu'une partie, en tout cas, il n'exclut pas d'en mettre une partie de la réserve de la banque centrale. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et alors il y a un dernier point aussi, alors qui est un peu plus flou là. La loi stipule aussi que l'État favorisera la formation et les mécanismes nécessaires pour que la population puisse accéder aux transactions en Bitcoin. On ne sait pas trop exactement quels seront les outils. La loi n'est pas entrée en vigueur hier, mais elle entrera en vigueur 90 jours après que le décret soit publié au journal officiel.
Le Salvador, donc, qui donne cours légal au Bitcoin, qui en fait une monnaie légale sur son territoire. Salvador, 6 millions d'habitants. Bon, c'est pas énorme, c'est la moitié de l'Île-de-France, mais enfin, quand même, c'est un symbole important, c'est peut-être même plus qu'un symbole. Quelles sont les motivations du Salvador, Owen, et quelles opportunités son choix ouvre-t-il ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la situation actuelle du Salvador. C'est-à-dire que là-bas, 30% des gens n'ont pas de compte en banque. Ils sont débancarisés. 30% des gens n'imaginaient donc pas pouvoir échanger de la valeur plus loin que le bout de leur bras. Rien que ça, l'accès à la technologie Bitcoin, qui permet d'échanger, grâce à un discours finalement numérique, de la valeur un peu partout dans le monde, rien que ça, c'est une révolution pour ces 30% de personnes qui n'avaient pas sur place accès au système financier. La deuxième chose, c'est le fait que un cinquième du PIB de ce pays provient d'une activité qui est générée grâce à l'argent des expatriés, des personnes généralement qui sont parties à l'international et qui renvoient des fonds à leur famille sur place. Rien que ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des intermédiaires qui permettent justement d'envoyer des dollars à l'international et à faire rentrer du coup des dollars dans le pays du Salvador. Et en l'occurrence, ces entreprises vont prendre jusqu'à 50% de commission sur tous ces flux entrants. Ce que Bitcoin ne fera absolument pas, évidemment. Donc, c'est principalement pour le dialogue numérique et cette technologie que le Salvador se tourne vers cette monnaie. Il y a évidemment plein d'autres raisons, mais principalement, c'est ça que ça va permettre. Sachant que pour la volatilité du Bitcoin, qui reste un problème, quelle que soit la nation qui s'intéresse au Bitcoin et qui veut en faire une monnaie légale, se doit de prendre en compte les problèmes de volatilité de cette monnaie. Il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour permettre aux personnes vivant au Salvador de changer à tout moment du Bitcoin en dollars et de se désexposer de cette volatilité. Donc en l'occurrence, c'est un premier gros signe dans le monde de la crypto-monnaie. Y a des gens qui disaient que le Bitcoin n'était pas une monnaie. D'un point de vue des trois fonctions de la monnaie d'Aristote, c'en était une, mais c'était vraiment débattu. Là, on peut répondre qu'au moins, quelque part, le Bitcoin est bel et bien une monnaie. Et pour beaucoup, ce n'est que le début, et c'est le premier domino de différents pays qui pourraient s'intéresser à cette technologie, surtout les pays rencontrant les mêmes problèmes.
Bah, on va voir justement quel pays pourrait suivre le Salvador. Le Salvador, on est content pour les Salvadoriens. Enfin, ils sont 6 millions sur 6 milliards d'individus sur Terre. Vincent, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle du Salvador qui accepte le Bitcoin comme monnaie légale désormais?
Oui, pour compléter rapidement toutes les choses intéressantes qu'a dit Owen, effectivement, c'est le premier pays qui accepte en tant que monnaie officielle un currency, un token de la blockchain publique. Moi, je vois plusieurs choses. pour le Salvador, ça va créer une alternative de financement parce que le Salvador ne renonce pas au dollar, le Salvador ne renonce pas au système bancaire. Mais voilà, ça fera deux branches de financement maintenant, puisque j'imagine bien qu'à terme, le pays envisage d'accéder, bien pourquoi pas, à toutes les ressources de la finance décentralisée. Donc ce sera Bitcoin plus dollar américain, blockchain plus réseau bancaire. Et puis pour revenir sur ce que disait Owen à l'instant, sur les habitants du Salvador, je pense que c'est aussi un pari à long terme que fait le président, en disant que ça va être un moyen de paiement. Le Bitcoin va petit à petit rentrer dans l'épargne financière des habitants. Et puis donc à long terme, si le prix du Bitcoin continue sa tendance haussière, in fine, ça va accroître l'épargne financière des habitants et puis peut-être leur capacité aussi à consommer. Donc je pense que là, c'est un vrai pari sur la poursuite de la tendance haussière. Et enfin, une dernière chose, l'objectif, c'est aussi d'attirer les investissements directs étrangers de tout l'écosystème cryptographique. On peut envisager que le pays aimerait bien accueillir aussi des grosses fermes de minage. Donc voilà, je pense que c'est toute cette ambition macroéconomique pour le pays qui est visée à travers le Bitcoin en tant que monnaie officielle avec le dollar.
Oui, et on a d'ailleurs, Vincent, une jeune entreprise qui est partie pour aider le Salvador à rentrer dans l'ère du Bitcoin. Charlie, est-ce que vous pouvez nous la présenter? C'est intéressant.
Oui, ça s'appelle Strike, donc Strike. Et c'est une application américaine. C'est une start-up qui a monté ça, qui s'appelle Zap. Et en gros, c'est un peu comme Lydia. Voilà, vous pouvez envoyer des fonds de façon instantanée, un peu partout où vous voulez. Mais contrairement à Lydia, qui est basée sur un réseau bancaire classique, là, elle est basée sur le protocole Bitcoin. Et donc, ce qui fait... Alors, vous pouvez envoyer des euros, vous pouvez recevoir des dollars, enfin, plein de monnaies. Et ce qui est intéressant, en fait, derrière cette application, c'est qu'ils exploitent une technologie, alors attention, qui s'appelle le Lightning Network, qui est en fait une surcouche de Bitcoin, du protocole, et en fait qui a de gros avantages. Et d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises dans le monde qui travaillent sur cette technologie, dont une française d'ailleurs qui s'appelle A5. Et donc en fait, elle permet notamment d'envoyer énormément de transactions, alors qu'aujourd'hui Bitcoin c'est limité à 3 à 5 transactions environ par seconde. Elle permet aussi, cette techno, de faire de l'instantané, ce qui n'est pas non plus le cas pour Bitcoin, puisque c'est environ 10 minutes pour faire passer une transaction, ce qui est assez long. Et elle permet en plus, surtout d'ailleurs, de faire baisser les frais de la transaction, puisque aujourd'hui, bon, les frais de transaction sur Bitcoin varient, mais là on est autour de quelques dollars, quelques euros. Et aujourd'hui, alors via Lightning Network de Strike, on est à 0,00026 euros par exemple. On est vraiment très bas. Donc elle vient complètement, en fait, on va dire, disrupter, si on peut dire, toutes les applications. Donc on parle beaucoup de remittances, qui sont Remitly, les Western Union, qui effectivement ont des grosses commissions, qui varient en fonction des pays, et surtout des fois qui ne sont pas très très transparentes. Donc voilà, c'est un beau positionnement. Alors après, évidemment, il y a la question de la variation du cours. Alors Strike dit qu'ils prennent en charge ce risque via notamment un partenariat avec une très grosse plateforme qui s'appelle Bittrex, donc qui fait énormément de volume, donc c'est grâce à ça. Mais il ne faut pas oublier quand même que le risque zéro n'existe pas, hein, si le Bitcoin casse 50% rapidement. Et enfin, cette application est aussi intéressante parce qu'elle s'adresse aussi aux marchands. Donc il y a le côté B2B, oui, où elle permet aux marchands d'accepter toutes les monnaies qu'elle veut dans le monde, dont d'ailleurs le Bitcoin. D'où, voilà, ça servira notamment au Salvador. Et voilà, pareil, ça permet de le recevoir instantanément, et ça permet aussi de ne plus passer par les Visa et Mastercard, et donc de payer beaucoup moins de commissions.
Une application de micro-paiement, donc, voilà. Strike, qui aidera sans doute aussi le Salvador à faire émerger davantage encore le Bitcoin sur son territoire, et pas que le Salvador, bien sûr, hein, ça s'utilise partout, on imagine. Voilà. L'écosystème qui continue donc de se constituer, et vous venez en témoigner les uns les autres chaque semaine dans ce rendez-vous sur BFM Business, les pros des cryptos. On rappelle à ceux qui veulent investir dans les cryptos que c'est de la diversification, ultra diversification. On n'y investit que l'argent dont on n'a pas besoin. C'est vrai pour d'ailleurs un certain nombre de placements. Alors il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est l'annonce de Ledger, qui a elle aussi fait le tour du monde cette semaine. C'était hier, le tour du monde de la tech et des cryptos, puisque Ledger, champion français, a annoncé une levée de fonds de 380 millions de dollars, ce qui va en faire une licorne, hein, ce qui la valorise 1,5 milliard de dollars. Ledger, nouvelle licorne française. Que propose Ledger? À quoi sert Ledger pour les usagers, Owen?
Alors, Ledger propose ce que l'on appelle des hardware wallets. J'en tiens dans la main pour ceux qui ont l'image. Ça ressemble à une clé USB en apparence, mais pour le coup, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour comprendre à quoi ça sert, il faut comprendre ce qui se passe quand on crée un compte sur la blockchain. En l'occurrence, la blockchain nous attribue deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, on peut voir ça un petit peu comme un RIB, pour que ce soit très parlant. C'est l'adresse qui va permettre aux gens d'aiguiller des fonds vers notre compte à nous. Ensuite, une fois que ces comptes sont arrivés, quand son propriétaire veut dépenser des fonds qu'il y a sur sa clé publique, là, il se doit de fournir son mot de passe, que l'on appelle la clé privée. En l'occurrence, cette clé privée, c'est un petit peu le secret que doit avoir chaque propriétaire de crypto-monnaie. Il se doit de la protéger. Il y a différents portefeuilles qui vont protéger cette clé privée, mais les plus connus et les plus résistants sont hors du réseau, donc déconnectés d'Internet. Comme ça, au moins, quelqu'un qui est dans le réseau ne peut pas obtenir ce mot de passe et le dérober. Et en plus de ça, détenus dans un hardware wallet, donc hardware comme c'est quelque chose de physique que je tiens entre les mains, et ça va permettre en quelque sorte de dialoguer avec la blockchain, de prouver que je suis bien le propriétaire de cette crypto-monnaie qui se trouve sur telle clé publique, mais sans avoir à montrer ma clé privée et en limitant au maximum son exposition et donc les chances que quelqu'un arrive à me la dérober. C'est vraiment ce que fait l'aide. Il y a différents modules, mais leur cœur de métier repose dans la sécurisation d'assets numériques.
Vous venez nous le montrer, hein, ce wallet, pour ceux qui nous suivent à la télé. C'est, voilà, vous nous le remontrez, c'est tout petit. Pourquoi une levée de fonds de 380 millions de dollars, Charlie?
Bah, c'est quand même aussi pour se diversifier, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme Owen le dit, c'est beaucoup, c'est un hardware wallet. Alors, il s'adresse à la fois aux particuliers, ils en ont vendu, je crois, plus de 2 millions déjà, et il s'adresse aussi maintenant aux entreprises, parce que les entreprises aussi qui achètent des cryptos ont besoin de les sécuriser, et même vraiment beaucoup, c'est quand on a quelques milliards, c'est quand même important. Et en fait, là, ils vont se diversifier parce que c'est bien de vendre du hardware, mais on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi que les entreprises sont rentables, voilà, c'est quand même d'avoir des revenus récurrents. Voilà, en tout cas, au moins de se diversifier. Et là, ils ont déjà lancé en 2020, c'est Ledger Live, qui est en fait une plateforme d'échange aussi de crypto et qui permet aussi d'ailleurs de placer ses crypto-monnaies. Ils l'ont fait en partenariat avec CoinFine. Voilà, et ça marche plutôt bien. Ils ont, je crois, 1,5 million d'utilisateurs. Bon, alors après, je ne sais pas si Owen va me contredire, mais quand on a un Ledger, souvent, on est obligé d'avoir le Ledger Live, en fait. Donc, j'imagine qu'ils comptabilisent aussi ça, d'où le chiffre important. Mais alors, d'après le patron de Ledger, ça génère déjà 20% de chiffre d'affaires depuis 2021. Et il voudrait que ça grimpe à 50%. Et ils imaginent encore d'autres types de services, notamment finances décentralisées. Alors, on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais voilà, c'est tous ces produits financiers qui sont basés sur la blockchain. On parle beaucoup de prêts crypto, etc. Et c'est un marché aujourd'hui qui a plus de 60 milliards de dollars. Et voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de projets. Il y a même un très, très gros projet secret dont on nous parle depuis des mois dans la communauté, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. ils font beaucoup de teasing là-dessus. Et ils parlent aussi d'une carte crypto, voilà, pour dépenser ces cryptos qui sont très à la mode. Hein. Beaucoup d'autres acteurs les proposent. Voilà, et puis il y a aussi dans tout ça, sûrement, je pense, des projets de fusion-acquisition, parce qu'ils ne peuvent pas aussi non plus tout développer en interne. En tout cas, c'est des choses qu'ils avaient mentionnées. Et évidemment, du recrutement, puisque voilà, il faut quand même. Ils ont prévu 300 recrutements là prochainement et ils sont 360.
Donc, ils vont vouloir tous vous recruter là, les pros des cryptos. Vous êtes les meilleurs sur cet univers crypto là. Non, mais voilà, cette levée de fonds, elle est spectaculaire, elle est énorme. 380 millions de dollars. Ledger, champion français hein, quand même dans l'univers des cryptos. Ça, c'est à souligner. On se plaint régulièrement, assez souvent, pour dire que voilà, l'écosystème ne se bâtit pas suffisamment par la France. Là, on a un champion français qui sera donc valorisé 1,5 milliard de dollars et qui vise, je crois, 100 milliards de dollars de valorisation interne. Un truc de fou.
D'ici 5 ans même.
Ah, d'ici 5 ans. On va les suivre de près. Question que peuvent se poser d'ailleurs les particuliers qui nous suivent. Ledger vend des wallets physiques et Owen nous en a montré un il y a un instant à l'image. Est-ce que Ledger peut aussi vendre des wallets en ligne? Est-ce qu'il existe des wallets en ligne, Owen?
Alors, tout à fait. D'ailleurs, il y a les cold wallets, les wallets froids, les wallets déconnectés du réseau et les hot wallets. Les wallets chauds, les wallets en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux existent. À ma connaissance, Ledger ne propose pas de hot wallet. Au contraire, leur politique, c'est bel et bien de sécuriser ses assets et de détenir sa clé privée de la façon la plus sécurisée possible. Le cold wallet est donc le hardware wallet qu'ils proposent. En l'occurrence, il en existe un petit peu partout, un peu différent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand c'est un hot wallet, c'est un wallet logiciel, donc un portefeuille qu'on peut avoir sur son ordinateur, par exemple. Et donc, si l'ordinateur est corrompu par un virus, ça pourrait donner accès au voleur pour qu'il dérobe cette clé privée. Il y a également des solutions online. Quand on laisse son argent sur une plateforme en ligne, comme Coinbase par exemple, ou encore comme Binance, ce n'est même pas sur notre clé privée que les fonds sont déposés. C'est sur la clé privée en ligne de Binance ou de Coinbase. Et c'est pour ça que certaines personnes disent « Tant que tu ne détiens pas tes crypto-monnaies sur ta clé privée, eh bien en fait ce ne sont pas tes crypto-monnaies ».
C'est aussi simple que ça. Et attendez, on va redescendre sur terre quand même. Ledger, là, voué au Gemini, pas du tout, porté au nu, justement, Ledger, avec cette levée, fierté française dans l'univers crypto. Vous nous dépeignez les uns les autres une boîte à succès. Elle a quand même des défauts, cette boîte, ou des challenges à relever pour la suite, Charlie?
Oui, évidemment, tout n'est pas tout rose. Déjà, c'est comme beaucoup de boîtes dans la crypto, elle dépend aussi des cours, en fait. Forcément, quand c'est la folie, que tout monte, ça marche très bien pour eux. On l'a vu en 2020, ils ont fait une plutôt bonne année, alors que si vous comparez avec l'année 2019, voilà, ils l'ont un peu moins bien vécu. Donc c'est vrai qu'il y a une forte corrélation. Ensuite, ils ont eu quand même une fuite de données aussi en 2020. Il y a eu énormément de mails de clients de Ledger qui ont fuité. Leurs fonds étaient toujours bien en sécurité, mais vous avez quand même toute votre base de données qui est dans la nature et qui peut servir ensuite à faire du phishing. Et donc on rappelle toujours qu'il faut toujours bien garder justement sa clé privée. Souvent on la note sur un petit bout de papier. Vous la donnez à votre grand-mère, à qui vous voulez. Pour être sûr de ne rien perdre.
Pas qu'elle ait trop de mémoire. Quand même.
Et ensuite, je dirais peut-être concurrence, peut-être sur le marché du professionnel, parce qu'ils sont très focalisés sur particuliers. Tout le monde les connaît. Enfin, je veux dire, voilà, quand on parle de conservation de crypto, tout le monde, de sécurisation, on se dit voilà, Ledger. Mais sur le B2B, ils ne sont pas encore hyper présents. Et on sait qu'il y a énormément d'acteurs et plutôt des institutionnels qui travaillent d'ailleurs sur des projets de conservation, de sécurisation de crypto. Il y a déjà beaucoup d'annonces ces dernières semaines.
Owen, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, les prochains challenges pour ce champion français des cryptos qu'est Ledger?
Premièrement, le changement d'échelle. Vu leurs objectifs, ils vont devoir encore et encore changer d'échelle. Et quand on a une production à base de hardware, le changement d'échelle est compliqué parce que ça passe par un changement d'échelle d'infrastructure. Je pense, évidemment, de façon objective, que c'est l'un de leurs gros objectifs. La deuxième chose, c'est que dans la crypto-monnaie, tout ce qui importe, c'est le volume. Comme c'est décentralisé, les gens choisissent par quelle plateforme centralisée ou décentralisée ils passent. Ledger a pris une place importante parce qu'énormément de gens utilisent leur technologie. C'est l'une des plus utilisées au monde pour sécuriser de la crypto-monnaie. Et donc, ils se doivent de proposer des services additionnels performants s'ils veulent pouvoir optimiser leurs chiffres et monter jusqu'à ces fameux 50% de d'exploitation sur leur chiffre d'affaires.
Voilà les enjeux des crypto-monnaies décodés par nos experts, les pros des cryptos, chaque vendredi. Merci beaucoup Owen Simonin, alias Asher, et sa chaîne YouTube, bien évidemment. Un grand merci à Vincent Gann depuis Trading View France, et puis un merci particulier à Charlie Perrault, journaliste au Journal du Net, qui m'aura accompagné pendant quelques semaines sur ce rendez-vous des pros des cryptos, architecte à mes côtés de ce rendez-vous. Voilà, pédagogue pour essayer de mettre la France, les Français aussi, sur les rails de cet enjeu d'avenir que sont les crypto-monnaies. Un grand merci, Charlie, de nous avoir accompagnés. On vous souhaite bon vent pour la suite. Vous avez un avenir sympa devant vous, on le sait, et on va vous retrouver très rapidement. Le CAC 40 est en hausse de 0,7%, 6594 points. On se retrouve dans un instant. Le club à suivre, on va aussi suivre dans la prochaine demi-heure la clôture des marchés en Europe. A tout de suite.